Notre Père Céleste, c'est vrai, tu es le même. Tu ne changes pas. Ta parole ne change pas non plus. Et comme disait l'apôtre, nous ne l'altérons pas. Nous la prenons telle qu'elle est écrite. Sois toi-même ton propre interprète, car cette parole, à l'origine, c'est elle qui a apporté toute chose à l'existence. Et comme vient de dire ton fils, cette parole, elle vient, elle déclenche quelque chose, elle fait ce dont tu demandes de faire, ce dont, en manière dont tu veux que les choses soient. C'est ainsi que tout se passe selon ce que tu as résolu. Aide-nous à occuper la place que tu nous as donnée à chacun. Sois miséricordieux pour nos fautes qui sont nombreuses. Et parle à nos cœurs ce soir. À chaque fois que nous aurons à méditer, viens nous parler. Que nous puissions tenir comme cet arbre planté près des courants d'eau. En attendant ce soir, pour cette prédication, nous te demandons de bien vouloir inspirer ta parole. Pendant que nous avons les yeux fixés sur les Écritures, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans Juges chapitre 16. En attendant, lorsque le culte sera terminé, si vous en avez l'occasion, vous voulez bien présenter vos condoléances à notre frère Corneille là-bas derrière, qui a perdu son beau-frère ainsi que sa tante maternelle. Que le Seigneur l'assiste. Juges chapitre 16. Premier verset. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, se nommait Delila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. On lit le verset 6 aussi. Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ? Et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ?» Nous allons poser justement cette question. D'où vient ta grande force ? On peut la poser à l'Assemblée ce soir. Connaissant les moments difficiles qu'elle a passés depuis l'année passée, connaissant les moments difficiles parfois par lesquels elle peut passer aujourd'hui, mais par où elle est passée hier. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on tienne debout? Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on persévère, malgré des difficultés? Malgré les cribles, les Philistins voulaient connaître d'où venait cette grande force que Samson avait. Tout comme aujourd'hui, lorsque vous expliquez parfois vos problèmes, vos malheurs à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils vous regardent et peuvent se demander: mais comment faites-vous pour tenir le coup? Et Samson, il est allé d'embuscade en embuscade, d'affrontement en affrontement contre les Philistins, qui leur causaient la vie dure, avant que Dieu ne suscite Samson. Et les Philistins étaient tout simplement étonné de voir cet homme qui était comme tout autre homme en apparence développer une si grande force. Ça peut être une force physique, ça peut être une force spirituelle, ça peut être une force morale. En fait, les chrétiens ne le savent peut-être pas, beaucoup ne le savent pas, mais ils ont en eux une puissance et une force cachée. Cachée tout simplement parce que les Philistins n'arrivent pas à voir ça. Parce que tout simplement, le monde ne le voit pas. Il y a une puissance qui nous est promise, qui devrait être en nous. Et cette puissance, le monde n'en sait pas grand-chose. C'est le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1er, Acte 1er, au verset 8, le Seigneur dit ceci à ses disciples: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous remarquerez qu'après la résurrection du Seigneur, les apôtres, en tout cas, non seulement après, mais juste au moment de la Pâque, au moment de la mort du Seigneur, au moment où on l'a arrêté, les disciples étaient devenus très discrets. On ne les voyait quasi plus. Ils se cachaient. Quand le Seigneur est ressuscité, il les a vus cloîtrés dans la maison où ils étaient. Mais ils sortaient très peu par rapport à avant la crucifixion. Et quand le Saint-Esprit est arrivé sur eux, c'était comme une libération. Ils étaient dans la rue, ils tenaient des sermons publiquement et même devant le Sanhédrin, sans aucune crainte. Ils avaient comme une force supplémentaire. Ils bravaient les interdits, ils bravaient toutes ces choses et ne s'empêchaient pas de parler. Et pourtant, pour nous, ça peut paraître normal. Et pourtant, Jésus-Christ dit que le monde ne connaît rien de ce Saint-Esprit. Dans Jean 14, Jean 14, verset 17, dit l'Esprit de vérité, premièrement, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. Deuxièmement, que le monde ne connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et vous connaissez le Saint-Esprit. Si vous connaissez le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il est censé faire en vous. Vous savez qu'il est censé de vivifier la parole de Dieu en vous, de rendre vivantes les promesses de Dieu en vous. Ce qui fait, lorsque vous vous retrouvez devant un danger, qu'il y a une promesse de victoire devant le danger, dans la Bible, le Saint-Esprit vivifie cette promesse et enlève la crainte qui devrait vous habiter. Tout simplement parce que le Saint-Esprit atteste que la parole de Dieu, elle est véritable. Elle s'accomplit certainement. Le croyant qui a peur, c'est le croyant qui n'a pas ce contact avec le Saint-Esprit. La promesse demeure pour lui une lettre. Une lettre qu'il lit. Et la Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et Saint-Esprit, Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 11, donc, nous devons savoir que c'est une promesse importante, c'est une très grande promesse lorsque l'apôtre dit, vous aurez le don du Saint-Esprit, ça devrait vous rassurer. Déjà, parce que si on lit dans la Bible ce que le monde sera, devrait être au moment où nous vivons en cet âge de l'Odyssée, ça devrait nous faire peur. Parce que Paul dit, ce sont des temps difficiles. Les hommes seront ingrats, cruels, ennemis de gens de bien, et toutes ces choses. Ce qui fait, ça peut mettre en vous la crainte. Mais le Saint-Esprit vous montre plutôt que malgré que ce sont des temps difficiles, vous êtes un vainqueur. Dans Ésaïe 11, le prophète nous rappelle un peu quel genre d'esprit c'est. Hébreux 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Sur ce rameau, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Si on dit sur lui, il s'agit bien d'une personne. Amen à ça. Cet esprit, c'est un esprit de sagesse. Donc, tout Pierre que vous êtes, si vous n'avez pas assez d'instruction, vous n'aurez pas peur de parler devant le Sanhédrin. Vous n'avez pas peur de sortir les Écritures devant ces docteurs de la loi qui sont là, qui ont passé toute leur vie à méditer sur la parole, mais en quelques instants, voilà des pécheurs qui se trouvent devant eux. Des gens, parmi eux, il y en a un qui est là, qui ne sait ni lire ni écrire, n'est-ce pas? Il vous sort des choses qui sont issues de la sagesse divine, en fait. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, cet esprit-là. C'est un esprit de conseil et de force. Amen. N'oubliez pas, le titre, c'est « D'où vient ta grande force ?» Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Samson avait cette force cachée. Il avait cet esprit-là. Nous allons le voir. Et tant que cet esprit était sur lui, rien ne pouvait l'arrêter. Qu'il se trouve en bonne posture ou en mauvaise posture, rien ne pouvait arrêter Samson. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Gaza? Il n'avait rien à faire à Gaza. Il était juge pour défendre Israël. Défendre Israël de ses droits. Israël était sur une terre que Dieu lui avait donnée. Et les Philistins en avaient fait quand ils les avaient quasi réduits à la servitude. Et Samson était là pour délivrer Israël du joug des Philistins. Et voilà qu'il va à Gaza. C'est en plein chez les Philistins. Chez une femme prostituée. Il entre là-bas. Finalement, la nouvelle se répand. Comme quoi Samson est allé voir une prostituée. Et on dit aux gens de Gaza, écoutez, celui qui nous combat, il est ici. Fermez les portes de la ville pour qu'il ne s'échappe pas. Demain, nous allons le tuer. Ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit pour qu'il ne s'échappe pas. À la porte de la ville, ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Eux, ils attendaient au point du jour. Samson va les surprendre. Il va se lever la nuit. Donc, il n'attendra même pas le point du jour. Vous savez, il y a de ces choses que l'on fait parfois. On change d'itinéraire, mais on ne sait pas pourquoi. On va d'un point A à un point B. Il y a une ligne directe. Ce jour-là, quelque chose vous pousse à faire un détour. Vous ne savez pas, en tant que croyant, pourquoi vous faites ce détour. Dieu vous a certainement sorti d'un mauvais pas. C'est pourquoi lorsque nous disons merci à Dieu, nous lui disons merci non seulement pour les actes que nous avons vus, mais nous lui disons aussi merci pour ceux que nous n'avons pas vus. Quand il demeura couché jusqu'à minuit, vers minuit, il se lève. Il se leva. Donc, bien avant, n'est-ce pas, le point du jour. Il se leva et la nuit, il n'y avait pas de lampe comme aujourd'hui, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Il saisit les battants de la porte, il n'a pas demander à ce qu'on lui ouvre la porte. Bien sûr, les portes des villes étaient fermées la nuit à cause des ennemis. Il saisit les battants de la porte et c'était des portes lourdes de la ville et les deux poteaux les arracha avec la barre qui les tenait fermées. Les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ce n'était pas un homme normal. Ce n'était pas un homme ordinaire. Tout comme tout chrétien n'est pas un homme ordinaire. Là où un incrédule a peur de poser les pieds, le chrétien y va. S'il doit traverser par là, il traversera. David dit, même la vallée de l'ombre de la mort. Et voilà qu'il porte cette porte jusqu'au sommet de la montagne, cette lourde porte. Ben, ça a étonné les Philistins. Les Philistins disent, il y a quelque chose derrière cette force. En Afrique, on dira que c'est un gris-gris. Oui. Que c'est une famille, c'est de la sorcellerie. C'est ce qu'on dirait en Afrique. Alors, il quitte là, il va chez une autre femme. Il va chez Delila. Verset 5, les princes des Philistins vont monter chez Delila et vont lui demander. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Un homme de Dieu, un homme qui se laisse flatter, il n'est pas de Dieu. Un homme qui aime qu'on le flatte, c'est de l'orgueil en fait. Il est content quand on le flatte, quand on voit qu'on fait des courbettes devant lui, il est content. Mais on le flatte, et justement, quelqu'un qui n'est pas de Dieu, quand vous le flattez, il va sortir plein de secrets parce que vous le flattez. Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lions pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delila dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ? Avec quoi il faudrait te lier pour te dompter ? » Quand vous avez traversé ce que vous avez traversé, surtout l'année passée, qu'on voit que vous êtes toujours debout, il y a lieu de vous demander où avez-vous tiré cette force ? Sont-ce les frères qui vous ont consolé ? Sont-ce les sœurs qui vous ont consolé ? Mais il y a des moments où vous vous êtes retrouvé bien seul. Et dans ce moment où vous vous êtes retrouvé bien seul, il y a quelqu'un qui parlait à votre cœur. Qui fait que vous ne le rejetez pas. Vous continuez toujours à aimer ce Dieu. Satan viendra vous parler un peu comme il a parlé à Job, mais vous continuez à l'aimer. Vous faites preuve d'une force de caractère pratiquement inhumaine, en dehors de l'ordinaire. Et malgré l'embuscade que les Philistins ont montée, il s'en est sorti. Malgré les embuscades que Satan peut monter autour de vous, en chemin, chez vous, au boulot, à l'école. Malgré toutes ces embuscades, vous vous en sortez. Pendant que les gens s'en donnent à cœur joie, vous vous êtes toujours à l'écart avec votre Dieu. Et vous avez toujours les moyens de vous en sortir. C'est une grâce. Vous avez toujours les moyens de vous tirer des embuscades du monde par la grâce du Saint-Esprit. Maintenant, en ce qui concerne Samson, Samson était sous une alliance avec Dieu. Il est né sous une alliance. L'alliance, c'était quoi ? C'était... Il ne devait pas boire de liqueur forte. Il avait les yeux, le vœu de Naziréa. Vous savez, ils étaient sous les Philistins pendant 40 ans. Et l'ange, lorsque l'ange va visiter la mère de Samson, qui attendait un fils, qui n'avait pas d'enfant, mais l'ange va le voir, va rencontrer la maman de Samson. Dans Juge 13, la maman de Samson était stérile. Dans Juge 13, verset 2, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, de Dan, et qui s'appelait Manoac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Alors, écoutez les termes de l'alliance entre lui, entre cet enfant qui naîtra, la maman, bien sûr, l'enfant au travers de sa maman, Et Dieu, maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte. Donc, si elle en prenait, maintenant qu'elle va attendre cet enfant, qu'elle n'en prenne plus. D'accord? Parce que cet enfant ne peut pas en boire et ne mange rien d'impur. Si Dieu lui dit ça, si l'ange de Dieu lui dit ça, c'est que ça lui arrivait peut-être de le faire. Parce que si elle ne le faisait jamais, ça ne sert à rien de lui interdire quelque chose qu'elle ne fait jamais. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Deuxième point de l'alliance, le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Samson ne buvait pas. Sur ce plan-là, Samson était fidèle. On ne lui a pas interdit, concernant les femmes, prostituées. On ne lui a pas demandé un vœu de chasteté. Il y allait allègrement. Tantôt chez une prostituée, tantôt chez Delilah, tantôt... Et finalement, Frère Abraham dit, ce sont les femmes qui l'ont fait tomber. Mais, malgré tout, Dieu restait fidèle à son alliance. Tant que le rasoir ne passait pas sur sa tête, tant qu'il ne buvait pas de liqueur forte, Dieu était toujours présent. Dieu est fidèle dans son alliance. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est ce que dit l'apôtre. Alors, tant qu'il était sous l'alliance, aucun ennemi ne pouvait prévaloir sur lui. Il pouvait se retrouver à 1 contre 1000 personnes. Il en sortait vainqueur. Parlez d'une force. Il va se marier. Quand on vous dit de ne pas vous marier à un incroyant, c'est l'esprit de sagesse qui dit ça. C'est Dieu qui nous demande. Il y a une incroyante, eh bien, lui, il a quand même aimé plutôt une Philistine. Alors qu'il y avait plein de femmes en Israël. Au chapitre 14, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « C'est celle-là que j'aime. » Prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Vous savez, nos gaffes, Dieu sait en tirer profit. Quand nous commettons des gaffes, Dieu en tire profit pour sa gloire. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Il voulait que le Philistin le provoque, mais il ne voyait pas comment faire. Alors Dieu l'aide. Il va voir une femme qui va lui plaire, chez les Philistins. Et cette femme sera justement le moyen par lequel Samson aura à avoir affaire avec les Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Ils vont aller. Hein. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Quand on vous parlait de l'esprit, du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. C'est ça la force cachée. Et quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, étant donné qu'il était sous alliance avec Dieu, avec cet esprit, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Ça vous rappelle quelqu'un? Ça rappelle David. Vous voyez? Donc, Dieu ne le fait pas seulement une fois. Dieu l'a fait deux fois, on voit ça dans la Bible. Peut-être même encore plusieurs fois où ce n'est pas écrit. Pourvu que nous soyons sous alliance. Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il y avait le Saint-Esprit qui le saisissait. À chaque danger, à chaque fois que c'était nécessaire, le Saint-Esprit venait le saisir. Alors, il va se marier. Quand on vous dit que les noces en Israël duraient une semaine, eh bien, verset 10, le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Les jeunes aiment bien s'impliquer dans les mariages. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours, c'est une semaine. D'accord ? 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils vont chercher l'énigme, ils ne vont pas trouver. Pendant 3 jours, n'est-ce pas, à la fin du verset 14, pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Ils arrivent au 7e jour. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, elle était devenue sa femme, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Parce que, en perdant, ne trouvant pas l'énigme, ils devaient, à leur tour, payer quelque chose à Samson. Alors, la femme est allée pleurnicher chez Samson. Verset 16, la femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Et lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Et c'est à toi que je l'expliquerai. Ouais. Et ça pose problème. Vous savez, quand elles se mettent à pleurnicher, elles savent comment s'y prendre. OK. Bien. Verset 19. L'Esprit de l'Éternel... Bon, finalement, il va craquer, il va lui dire. Alors, quand il va lui dire, elle va leur souffler. Au verset 17, il va lui expliquer. Il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Les gens de la ville dirent à Samson, le 7e jour, avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur dit, Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. C'est ma femme qui a vendu le morceau. Alors, maintenant, lui devait leur payer, n'est-ce pas, 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Alors, verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit et il descendit à Ascalon et il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Prend sa femme, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. C'était des temps difficiles. Au chapitre 15, il va avoir affaire à 1000 personnes. Et au verset 15, il va sortir une mâchoire d'âne qu'il va ramasser. Exactement comme Moïse, quand Dieu l'envoie chez Pharaon. Moïse peut, c'est moi qui dis ça, Moïse dit, je vais aller les mains vides, comme ça. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai un bâton. C'est que vous avez tout prêt, ayant le Saint-Esprit, Dieu en fera toujours quelque chose. Du temps du Seigneur Jésus-Christ, il a toute une foule l'a suivi. Il fallait donner à manger à cet enfant, à cette foule, n'est-ce pas? De la nourriture. Il y a un jeune homme, un jeune garçon qui passait avec 5 pains et 2 poissons, n'est-ce pas? Et on est venu remettre ça entre les mains du Seigneur et ça a été multiplié. Ainsi que le frère dit, tout ce que vous avez, si vous mettez ça entre les mains de Dieu, ça fructifie. Et cette mâchoire d'âne qui était là, qui pouvait certainement s'éparpiller au premier coup, mais non, ça va tenir le coup parce que Dieu était avec lui. Au verset 14, lorsqu'il arriva à Léki, à Léchi ou Léki, je ne sais pas, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel, il ne fuit pas. L'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Les liens, c'est sa propre frère, ce sont ses frères qui l'ont lié. Parce que les Philistins ont appris l'histoire des 30 hommes qu'il a tués. Ils sont venus le trouver, ils ont menacé. Les Israélites ont eu peur, ils ont eu peur, ils ont dit oui, à cause de Samson, voilà ce que maintenant que les Philistins sont fâchés sur nous. Et ils ont exigé que Samson leur soit livré. Et il leur a été livré, lié. Bien, malgré tout, quand l'Esprit de l'Éternel l'a saisi, n'est-ce pas? Les cordes ont lâché, comme du lin brûlé. Et il va avoir les mains libres, il va trouver une mâchoire d'âne fraîche, il va étendre sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Verset 15. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Ouais. Tout ça, c'est tant que vous êtes sous alliance. Tant qu'il ne boit pas de liqueur forte, ce que Dieu lui a demandé, et tant que le rasoir ne passe pas sur sa tête. L'Esprit de Dieu, dans ce genre de situation, quand vous êtes attaqué de toutes parts, quand les problèmes viennent de tous côtés. Notre meilleur allié, c'est le Saint-Esprit. Le frère, là-bas derrière, quand je suis entré, je lui dis, est-ce que tu as donné, puisqu'il m'avait appelé. Tu as fait l'annonce pour ton beau-frère. Il me dit, non, mais il n'y a pas que le beau-frère, mais il y a aussi maintenant la tante maternelle. Oui, ça vient parfois de tous les côtés. Vous allez consoler pour une personne et puis à peine vous tournez le dos, la personne reçoit une autre mauvaise nouvelle. Ça n'en finit pas. Et la personne qui est venue consoler, elle ne sait pas faire demi-tour, elle doit s'en aller. Mais Dieu reste avec vous. Le Saint-Esprit reste avec vous. Ouais. L'Esprit de Dieu vous donnera la force dans la douleur, dans la souffrance, dans l'affliction, dans la tristesse. Jésus l'appelle un consolateur. C'est le grand consolateur. Et en ce qui nous concerne, ce consolateur nous est promis dans une nouvelle alliance. Ce n'est pas l'alliance de Samson. Ne bois pas, ne rase pas ta tête. C'est une autre alliance. Quelle alliance? On en a un peu parlé dimanche. On vous donne un esprit nouveau. D'abord, avant ça, puisque ça, on n'a pas lu, vous êtes lavé d'une eau pure. Lisez seulement Ézéchiel 36, 25 à 27, je crois, ou 24 à 27. Donc, vous lisez ça, vous êtes lavé d'une eau pure. L'eau pure, c'est la parole. C'est la parole sans mélange, sans interprétation particulière. Cette parole que vous avez reçue en cet âge, elle vient, elle vous lave de vos mauvaises habitudes. Elle vous lave de cela. Hein, vous connaissez l'histoire. Donc, par cette parole, lorsque vous y croyez, vous êtes justifié. Vous connaissez l'exemple qu'on donne, on a déjà donné de verre qui est tombé dans la poubelle ou dans une cuvette. Vous la prenez, vous la lavez. Vous n'avez pas la laver avec l'eau de la cuvette. Vous allez le laver avec de l'eau pure, n'est-ce pas? Alors maintenant que vous l'avez bien lavé à l'eau pure, c'est bien propre. C'est bien, c'est prêt à être employé. Maintenant, vous, si vous n'avez pas soif à ce moment-là, vous le mettez de côté, de telle manière, dès que vous aurez soif, vous voudrez boire quelque chose, vous irez vous servir, vous prendrez ce verre que vous utiliserez. Le mettre à l'écart, ainsi, prêt au service, c'est la sanctification. Et puis vous le remplissez, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous le remplissez de Saint-Esprit. Et dans cette alliance, dans cette nouvelle alliance, l'avantage qu'il y a, il n'y a pas de Delilah qui viendra pleurnicher auprès de nous pour que nous vendions le morceau, pour que nous soyons mis hors de l'alliance. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous scelle, vous donne le Saint-Esprit, il vous scelle. Le Saint-Esprit est un sceau. Il y en a qui différencient le baptême du Saint-Esprit avec le scellement, mais vous savez, le sceau de Dieu, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Oui. Alors, une fois que vous êtes scellé avec ça, vous êtes inébranlable. On peut pleurnicher, on peut vous demander le secret. Vous êtes toujours sous l'alliance. Dites amen à ça. Ça ne peut pas vous quitter. Donc, vous ne pouvez plus être infidèle à l'alliance. Dieu dit, je ferai une nouvelle alliance avec mon peuple. Et je laisserai l'alliance, la vieille alliance, par laquelle leurs pères ont violé. Mais cette nouvelle alliance, elle est inviolable. Pourquoi? Parce qu'elle est inconditionnelle. Il ne nous demande pas de ne pas boire, il ne nous demande pas de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça. Non, l'alliance est inconditionnelle. C'est pourquoi je vous dis toujours, Jésus l'a dit, s'il faut importuner Dieu pour cela, importunez-le. Il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Demandez-le lui, il vous l'accordera. Et quand vous l'avez, vous êtes quasiment une œuvre achevée. Parce que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui va vivre en vous. Et Samson, tant qu'il était sous l'alliance, l'Esprit de Dieu le saisissait. Quand est-ce qu'il est devenu faible? C'est quand il a perdu le signe de l'alliance. Il est devenu comme tout autre homme. Et la Bible nous dit que Dieu s'est retiré de lui. C'est dans Juges 16, quand il va dévoiler le secret, il va ouvrir son cœur. Vous voyez, à Delila, au verset 17, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Et nous de même, nous devons connaître ce qui peut nous sortir de l'alliance au cas où, une fois que nous avons bien commencé. Parce que quand Frère Branham parle de Samson, Frère Branham dit, Samson a commencé d'un bon pied. Nous aussi, au moment où nous avons commencé d'un bon pied, nous allions de victoire en victoire. C'est le jour où nous en sommes écartés, que cela a fait que nous sommes devenus comme n'importe lequel des hommes. Et alors à ce moment-là, tous ces démons que l'on croyait avoir vaincus, nous les voyons revenir. Vous voyez? Les haineux, les colériques, ceux qui vous apportent de l'amertume, les médisants, les calomniateurs, tous ces démons-là viennent. Et ce qui fait que beaucoup se pose la question, est-ce que ça, c'est vraiment un chrétien? Ou est-ce que c'est vraiment une assemblée de Dieu? Et Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais, gloire à Dieu, en ce qui nous concerne, nous sommes sous une alliance dont nous ne pouvons pas perdre l'exercice dont nous ne pouvons pas sortir. Une fois que nous y sommes, Dieu nous scelle là-dedans. Et parce que Dieu prend sur lui le fait, disait ça dans Ézéchiel 36, il prend sur lui le fait que nous obéissions, que nous observions sa parole, que nous la mettions en pratique à tout moment. Et avec un signe que nous ne pouvons pas perdre. On peut nous passer un rasoir sur la tête, ce n'est pas ça qui va faire que le Saint-Esprit va s'en aller. Si on se retrouve à un endroit qu'il ne faut pas, Dieu sait, il va nous taper sur les doigts. Hein? Il le dit, hein? Dans Hébreux 12, il dit, ses enfants, il les châtie. Les enfants qu'il aime, il les châtie. Et nous sommes forts. Comme dit le cantique, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Nous avons une grande force. Et je le crois de tout mon cœur. Parce que quand je regarde en arrière, ce soir, quand je regarde un peu par où l'Assemblée est passée, non seulement l'année dernière, mais même les années d'avant, l'année d'auparavant, ce n'est pas par notre force, c'est par la force de Dieu. Nous croyons que le Saint-Esprit a été avec nous. Et si nous tenons le coup, c'est toujours par lui. Et nous savons que le zèle, ça fait partie d'une arme de l'esprit. Et c'est une arme à prendre, ce zèle que donne l'évangile de paix. Dieu sait comment nous devons faire pour avoir ce zèle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit de manière à ce que nous soyons toujours en possession de ces armes qu'il faut pour affronter les difficultés, ou pour tracer le sentier par lequel nous devons passer. Ça va écorcher par-ci, par-là, il y aura des épines par-ci, par-là, mais les épines, elles n'auront aucun effet sur vous. Les épines ont des effets sur ceux qui sont soucieux. Les soucis de la vie. Par contre, ceux qui savent tout remettre à Dieu, même si ça semble être compliqué, le Saint-Esprit lui montre que c'est faisable, c'est possible. Donc, eux, ils ne fléchissent jamais. Ils sont toujours forts. Amen. D'où vient cette grande force? Je cherche le verset, je ne le trouve pas, mais je l'avais vu tout à l'heure, je ne l'ai pas noté. C'est Dieu qui nous donne la force et la puissance. C'est lui qui nous donne ces choses. Ces deux choses-là, c'est lui qui nous donne. Dans l'Épître aux Philippiens, il dit, il nous donne le vouloir et le faire. Que Dieu vous bénisse. D'où vient cette grande force? Elle vient du Dieu vivant. Et c'est sur lui que nous comptons. C'est pour cela que nous chantons toujours. Nous voulons compter sur sa grâce pour aller plus loin. Prions le Seigneur. Père Céleste, te remercions ce soir pour la force que tu nous donnes. C'est vrai que le chemin est rude par endroits. Passons par mots et par vous, mais c'est sur ton aide que nous comptons. Sur le Saint-Esprit que tu as promis. Tu leur as dit avant d'être témoin, d'aller témoigner de la bonne nouvelle, leur a demandé d'attendre que cette puissance vienne sur eux. Et lorsque nous voyons comment les choses se sont passées par la suite, nous réalisons combien ils avaient besoin de cette puissance. Nous te remercions ce soir. Nous te remercions pour cette glorieuse promesse. Nous voulons, ô Dieu, vraiment nous sentons poussés comme Jacob d'autrefois, qui ne voulait pas lâcher l'ange tant qu'il n'avait pas reçu la bénédiction. Ici, c'est une promesse qui est pour nous. Puissions-nous pas te lâcher tant que nous ne l'avons pas reçue. Promesse est pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu appelleras. Sois béni et nous nous en remettons à toi et nous comptons sur toi pour les jours à venir, pour tout ce qui va se faire tout au long de la semaine. ceux qui ont décidé de se faire baptiser. On ne les appelle pas à une marche facile, mais il n'en reste pas moins que c'est une marche glorieuse. Ah, où ils peuvent contempler ta gloire, peuvent voir ta main agir, là où ils peuvent sentir ta présence tout au long du chemin. Nous te remettons pour ceux qui doivent rentrer ton chemin du retour entre les mains. Pour ceux qui ont encore affaire dans la salle, que tu sois avec eux, au milieu d'eux, que tu les bénisses. Au nom tout suffisant de notre Seigneur Jésus-Christ, t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.